Premier jour, vêpres. Où l'on visite le reste de l'abbaye, Guillaume tire certaines conclusions sur la mort d'Adelme. L'on parle avec le frère Verrier de vers pour lire et de fantômes pour qui veut trop lire.
À cet instant, on sonna pour vêpres et les moines se disposèrent à quitter leur table. Malaki nous fit comprendre que nous aussi nous devions nous en aller. Lui, il resterait avec son aide, Béranger, pour remettre de l'ordre dans les choses et, ainsi s'exprima-t-il, pour préparer la bibliothèque pour la nuit. Guillaume lui demanda s'il fermerait ensuite les portes. Il n'y a point de porte qui défende des cuisines et du réfectoire l'accès au scriptorium, ni du scriptorium à la bibliothèque. Plus fort qu'aucune porte doit être l'interdit de l'abbé. Et les moines doivent se servir et des cuisines et du réfectoire jusqu'accompli. À partir de là, pour empêcher qu'étrangers ou animaux pour lesquels l'interdit ne joue pas puissent entrer dans l'édifice, je ferme moi-même les portes d'en bas qui mènent et aux cuisines et au réfectoire, et dès lors, l'édifice reste isolé. Nous descendîmes. Tandis que les moines se dirigeaient vers le chœur, mon maître décida que le Seigneur nous pardonnerait si nous n'assistions pas à le Fils divin. Le Seigneur eut beaucoup à nous pardonner au cours des jours suivants, et il me proposa de marcher un peu avec lui sur le plateau afin de nous familiariser avec les lieux. Nous sortîmes des cuisines, traversâmes le cimetière. Il y avait des pierres tombales assez récentes, et d'autres qui portaient les marques du temps, racontaient les vies de moines ayant vécu dans les siècles passés. Les tombes étaient sans nom, surmontées de croix de pierre. Le temps se gâtait. Un vent froid s'était levé et le ciel s'embrumait. On devinait un soleil qui se couchait derrière les jardins, et déjà l'obscurité tombait vers l'Orient, où nous dirigeâmes nos pas, longeant le cœur de l'église et rejoignant l'arrière du plateau. Là, presque adossé au mur d'enceinte, à l'endroit où il se soudait à la tour orientale de l'édifice, se trouvaient les sous, et les porchers remplissaient à ras-bord la jarre du sang de leurs cochons. Nous remarquâmes que derrière les sous, le mur d'enceinte était plus bas, au point qu'on pouvait s'y pencher. Au-delà de la pique des murailles, le terrain qui descendait vertigineusement était recouvert de débris que la neige n'arrivait pas à cacher tout à fait. Je me rendis compte qu'il s'agissait du dépôt des litières qu'on jetait d'ici et qui glissait jusqu'au tournant, là où bifurquait le sentier sur lequel s'était aventuré le fuyard Brunel. Je dis litière, car il s'agissait d'une avalanche de matière en putréfaction dont l'odeur arrivait jusqu'au parapet où je me penchais. Évidemment, les paysans venaient d'en bas se servir pour enfumer les champs. Mais aux déjections des animaux et des hommes se mêlaient d'autres déchets solides. Tout le flot de matière morte que l'abbaye expulsait de son propre corps pour se garder limpide et pur dans son rapport avec la cime du mont et avec le ciel. Dans les écuries toutes proches, les gardiens des chevaux ramenaient les animaux au râtelier. Tout le long du chemin que nous parcourûmes se succédaient du côté de la muraille les écuries, les étables, les bergeries et à droite, adossés au chœur, le dortoir des moines et puis les latrines. Là où le mur oriental s'incurvait vers le midi, à l'angle de l'enceinte, était le bâtiment des forges. Les derniers forgerons remisaient leurs outils et assujettissaient les soufflets pour se rejoindre à l'office divin. Guillaume se dirigea avec curiosité vers un coin des forges, presque séparé du reste de l'atelier, où un moine rangeait ses affaires. Sur son établi se trouvait une superbe collection de verres multicolores, de petites dimensions, mais des plaques plus larges étaient appuyées au mur. Il y avait devant lui un reliquaire encore inachevé, dont il n'existait que la carcasse en argent, mais dans laquelle il était évidemment en train d'enchâsser verres et autres pierres, qu'avec ses instruments il avait réduit aux dimensions d'une gemme. Nous connûmes ainsi Nicolas de Morimonde, maître verrier de l'abbaye. Il nous expliqua que dans la partie postérieure de la forge, on soufflait aussi le verre, tandis que dans la partie antérieure où se trouvaient les forgerons, on fixait les verres à la résille de plomb pour en faire des vitraux. Mais, ajouta-t-il, la grande œuvre de verre qui embellissait l'église et l'édifice avait été achevée depuis au moins 2 siècles déjà. Maintenant, on se limitait à des travaux mineurs ou à la réparation des dégâts du temps. Et avec grande difficulté, ajouta-t-il, parce qu'on n'arrive plus à trouver les couleurs d'autrefois, surtout le bleu que vous pouvez encore admirer dans le chœur, d'une qualité si limpide qu'avec un soleil haut dans le ciel se déverse dans la nef une lumière de paradis. Les vitraux de la partie occidentale de la nef, refaits naguère, ne sont pas de la même qualité. Et on le voit par les jours d'été. C'est inutile, ajouta-t-il, nous n'avons plus la sagesse des anciens. Elle est bien finie, l'époque des géants. Nous sommes des nains, admit Guillaume, mais des nains juchés sur les épaules de ces géants. Et dans notre petitesse, il nous arrive parfois de voir plus loin qu'eux à l'horizon. Dis-moi ce que nous faisons mieux qu'eux n'aient su faire, s'exclama Nicolas. Si tu descends dans la crypte de l'église, où est gardé le trésor de l'abbaye, tu trouveras des reliquaires d'une facture si exquise que ce misérable avorton en train de prendre forme, et il fit un geste en direction de son propre ouvrage sur l'établi, te semblera les singer. Il n'est écrit nulle part que les maîtres verriers doivent continuer à construire des fenêtres et les orfèvres des reliquaires si les maîtres du passé ont su en produire d'aussi beaux et destinés à durer dans les siècles. Autrement, la terre se remplirait de reliquaires, à une époque où les saints d'où tirer des reliques sont si rares, plaisanta Guillaume, et on ne devra pas non plus souder à l'infini des fenêtres. Mais j'ai vu dans différents pays des ouvrages nouveaux faits avec le verre, qui font songer à un monde de demain, où le verre sera non seulement au service des offices divins, mais aussi viendra en aide à la faiblesse de l'homme. Je veux te montrer un ouvrage de nos jours dont je m'honore de posséder un fort utile exemplaire. Il mit les mains dans sa coule, et en retira sa paire de verres, qui laissèrent tout ahuri notre interlocuteur.